Ils enlèvent pas les
Alors,
musulmans.
Je voudrais faire juste une petite introduction. Donc, d'abord, c'est le cours est dédié à Leilou Nishmat, Nathan Abraham Ben Yehudit. Et je voulais rappeler aussi que la paracha Vayakel, c'est une paracha qui est très importante quand on parle de Shabbat. Puisque c'est de la paracha Vayakel qu'on apprend les 39 travaux. Pourquoi? Parce que la paracha Vayakel commence par Vayakel Moshe. Donc Moshe Rabbeinu a rassemblé les Bnei Israël. On était le lendemain de Yom Kippour. Moshe Rabbeinu est descendu pour la troisième fois consécutive de la montagne. D'accord? Allez, asseyez-vous. Là, on est en comité restreint cette semaine. C'est les vacances encore. Donc, Moshe Rabbeinu est descendu pour la troisième fois consécutive de la montagne. Première fois, il était monté pour chercher les premières louchotes. 40 jours. Les louchotes qu'il a dû casser en descendant puisqu'il a découvert le veau d'or. Deuxième fois, il est remonté pour obtenir le pardon. Il est redescendu, c'était Rosh Chodesh Elul. Troisième fois, il est redescendu, c'était le jour de, le 10 Tishri, le jour de Yom Kippour. Et le lendemain, comme Rashi nous dit, le lendemain, donc le 11 Tishri, le lendemain de Yom Kippour, Moshe Rabbeinu a rassemblé les Bnei Israël pour leur donner la réponse de Dieu, pour leur dire, bon, Dieu accorde le pardon, mais vous allez devoir construire le Mishkan. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début de la paracha Vayakel, d'ailleurs la paracha Vayakel et Pekoudé vont être dédiées au Mishkan, puisque Terumat, vous savez, c'est Dieu qui parle à Moshe, et Vayakel Pekoudé, c'est Moshe Rabbeinu qui répète le Bnei Israël. Ce qui est intéressant, c'est que bien que la majorité de la paracha Vayakel et Pekoudé est dédiée à la construction du Mishkan, les trois premiers versets de la paracha Vayakel parlent étrangement de quoi? Ils parlent du Shabbat. D'accord? Ils parlent du Shabbat. Et quelle interdiction plus particulièrement du Shabbat? L'interdiction du feu. Le feu. C'est pour ça que, si vous demandez à quelqu'un, j'ai posé la question hier soir aux jeunes, je leur ai dit, quelle est la première interdiction qui vous passe à l'esprit lorsque je vous parle du Shabbat? Ils m'ont tous répondu le feu. Allumer la lumière ou la voiture. Là, toujours le feu, c'est-à-dire c'est le feu.
D'accord ?
Le feu. Voilà, moi j'ai vu une fois des gens, ils allument pas le feu à la maison, ça veut dire ils allument pas le gaz, mais la lumière ils allument, tu vois, la voiture ils prennent. C'est la même chose. Non, parce que c'est le feu. Comme ça. Bon. Alors donc j'étais en train de dire que le chidouche qu'il y a dans la paracha de cette semaine, c'est quoi? C'est que d'où sont sortis les 39 travaux.
On a allumé la plaque électrique.
Les 30... Alors les 39 travaux, on les apprend, du Mishkan, puisque la Torah n'a jamais cité les 39 travaux. La Torah a cité uniquement l'interdiction d'allumer le feu. D'où on a appris le reste des 39 travaux? C'est parce que la Torah a juxtaposé l'interdiction de transgresser le Shabbat au Mishkan. Et de là on a compris que si tu veux savoir, la Torah te dit tu ne feras pas de travail. C'est quoi un travail? Juste après, elle te dit le Mishkan. Donc, de là, les Chachamim ont compris. C'est un message de la Torah pour te dire, si tu veux savoir quel travail est interdit, regarde ce qu'on faisait au Mishkan. D'accord? Et donc, c'est de là qu'on a tiré les 39 travaux. D'accord? Donc, c'est de là qu'on a tiré la cuisson, c'est de là qu'on a tiré l'écriture. Par exemple, l'écriture, vous savez pourquoi on écrivait dans le Mishkan?
Sur les poutres.
Pourquoi pour les poutres?
Pour les numéroter.
Parce que le Mishkan était monté et démonté.
Pour les numéroter.
D'accord? Donc, pour les numéroter. Et pourquoi il faut écrire au minimum 2 lettres pour être Hayav?
Parce qu'avec une seule, on pouvait pas.
Parce que...
Il y avait trop de poutres.
Mais non, parce que...
Il y avait plus que 22.
Parce que à quoi sert... Ouais.
Si c'est un huissier, tu lui dis, on a déjà donné.
Je vais prendre un café. Merci. Puisque à quoi servaient les lettres?
Bravo.
Merci beaucoup.
Numéroter les poutres. Allez, mettre en séquence.
Signer l'échec.
Alors... À quoi servaient les lettres, d'accord? Les lettres servaient à numéroter les poutres. Donc si c'est pour numéroter, bah forcément il y a toujours besoin de moins de 2 numéros, même si j'écris une seule lettre. Il y a toujours besoin de 2 numéros. Un numéro sur une poutre, un numéro sur une autre. D'accord? De la même manière, ça explique aussi comment ça se fait que Minatora, c'est interdit seulement si j'efface pour réécrire. Effacer, c'est un des 39 travaux. Mais c'est interdit uniquement si j'efface pour réécrire. Parce que dans le Mishkan, on n'effaçait pas pour effacer. Si on efface, pourquoi on devait effacer? Bah, par exemple, si j'écris un mauvais numéro sur la poutre, je vais effacer, mais pour en écrire un autre. D'accord? Elle veut quoi? D'accord.
Bon, si ah oui,
ok.
B-I-S-M-U-T-H à la fin.
Mais quoi, il m'a même faux dans le Mishkan.
Oui, bien sûr. Mais on n'avait pas le droit de transgresser le Shabbat pour la construction du Mishkan. D'accord. Bon, c'était juste une petite introduction. Shabbat Shalom. Donc maintenant on va faire maintenant quelques halakhot aujourd'hui en ce qui concerne la préparation de la nourriture pendant Shabbat. Donc on a déjà parlé de la cuisson, on a déjà parlé du tri, D'accord. On a déjà donné, donc on a fait le tour. Bon, Bezrat Hashem, on révisera un jour, mais on a déjà fait le tour. Maintenant, on va parler de différentes halakhot autour de la nourriture, différentes halakhot on va toucher à différents interdits. C'est-à-dire pas seulement au tri et à la cuisson, on va toucher à différents interdits. Par exemple, alors écoutez bien cette interdiction. La semaine dernière, enfin il y a deux semaines, on avait parlé de l'interdiction.
Troisième mignon.
L'interdiction de cuire par, comment on appelle ça quand on, avec le sel, par
macération.
D'accord ? Ok. Bon. Alors de là maintenant, écoutez bien, c'est très important ça. Les Chachamim m'ont interdit de saler un plat qui a l'habitude d'être macéré ou d'être mis en conserve. Donc par exemple, je ne sais pas quel plat on a l'habitude de mettre en conserve, mais à l'époque c'était l'oignon, le concombre. D'accord ? Aujourd'hui on met encore ça, l'oignon, le concombre, on le macère encore ?
Je vois même pas comment on fait.
Ouais, à l'époque...
Ah, les concombres sel, genre cornichon, d'accord.
Ouais.
Dans l'eau salée.
Voilà, dans l'eau salée, toujours dans l'eau salée. Alors, à cause de ça, les Chachamim m'ont interdit de saler... Donc tout ce qu'on a l'habitude de macérer, sauf la seule condition, la seule permission que les Chachamim ont mis, c'est si je le mange tout de suite. Ou bien, il y a deux solutions possibles. Soit je le trempe, vous savez, il y a des gens qui trempent, hein, le concombre, ils le trempent dans le sel, ils mangent tout de suite. Bon, ça c'est permis, si je le fais tout de suite, ça c'est la première permission. Ou deuxième permission, c'est si je vais saler mes concombres et que je rajoute par derrière de l'huile ou du vinaigre. Pourquoi ? Parce que l'huile et le vinaigre, attendez, parce que l'huile et le vinaigre, par définition, ça affaiblit la force du sel. C'est pour ça que c'est permis.
Mais le vinaigre aussi cuit. Hein.
Le vinaigre. Oui, mais ça affaiblit la cuisson du sel. Voilà. Donc voilà pour notre halakha. Donc on n'a pas le droit de saler. Vous savez, par exemple les concombres, je vais les saler. Bon, aujourd'hui la question c'est pas ça parce que les concombres, les gens ne les macèrent plus. On macère, vous avez déjà vu des gens macérer des concombres ?
On macère plus les cornichons.
Les cornichons, voilà, vous voulez saler un cornichon. Vous avez envie de saler un cornichon. Alors c'est permis, seulement deux permissions possibles. Soit si c'est pour le manger tout de suite, c'est-à-dire vous le trempez, vous mangez tout de suite, ou soit si vous rajoutez un peu d'huile par-dessus, parce que l'huile, forcément, ça va affaiblir le pouvoir de cuisson du sel. D'accord.
On peut saler Shabbat, ton plat ?
Bien sûr. Pourquoi pas, oui, bien sûr. D'accord. Alors, autre chose maintenant aussi. Ok. Maintenant, autre chose. Bon, après, il y a différents cas, mais des cas qui ne concernent pas, donc c'est pour ça que je ne veux pas en parler. Ah si, il y a quand même un cas intéressant. Quand même un cas intéressant, bon, ça ne nous concerne pas, mais c'est un cas intéressant. Vous savez que quand on achète aujourd'hui la viande en boucherie, la viande est déjà cachérisée.
D'accord ?
Il fut un temps, c'était pas le cas. Aujourd'hui, dans la majorité des cas, c'est cachérisé. Vous demandez au boucher, il vous le fait, quoi. C'est classique. Il fut un temps où c'était pas le cas. Donc, il y avait des halakhot de cachérisation. Il y avait des halakhot de cachérisation. Et alors, ce qui est particulier pour la viande, c'est qu'on ne doit pas dépasser 3 jours. D'accord ? On ne doit pas dépasser 3 jours après la shrita. 3 jours après la shrita, c'est déjà trop tard. Donc on doit la cachériser dans les 3 jours. Donc,
pour la cachériser, pas pour la consommer.
Alors, maintenant vous avez une personne qui a fait la shrita, c'était donc mercredi. D'accord ? Non, pardon, jeudi. Et donc le troisième jour, c'est Shabbat. Non, il a oublié, il arrive Shabbat, et si on ne fait pas la cachérisation aujourd'hui, ça y a un animal entier qui part à la poubelle. D'accord ? Sauf que là, alors, c'est un peu un problème, parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a ? Il va saler, il va rien faire. Il va pas cuire. D'accord ? Donc ça part rentrer à quoi ? A priori, ça ne s'apparenterait à aucun interdit. Il y a quand même un interdit, c'est que est-ce que vous savez pourquoi on sale ? Prends sale la viande. Pour enlever le sang. Oui, mais ce sang, je ne vais rien faire avec moi.
On va le faire disparaître, on ne va pas le consommer.
Disparaître, oui. D'accord ? Alors écoutez la halakha dit comme ça. La halakha dit que si ça arrive, Ras Shalom, le mieux c'est de trouver un goy pour le faire. Il y en aura de lui demander explicitement, il n'y a aucun problème. Si on ne trouve pas de goy pour le faire, d'accord ? Là, dans ce cas-là, il dit Moutarlo le Israël à Sotken. Ça veut dire qu'un juif a le droit de le faire, mais par contre, il a le droit de déplacer la viande le moins possible. Pourquoi ? Je vais expliquer pourquoi. Parce que les Chachamim m'ont interdit, il y a une interdiction de moukhté sur tout ce qui n'est pas consommable. Pourquoi les Chachamim ont cette interdiction ? Parce qu'ils n'ont pas envie que les gens se retrouvent à faire le ménage Shabbat. Donc c'est pour ça que tout aliment qui n'est pas consommable et que je ne compte pas manger, tu ne touches pas. Tu ne touches pas. Alors, ça veut dire que par exemple, vous avez un fruit qui n'est pas mûr. Un fruit qui n'est pas mûr. Il est moukhté. Moukhté, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que j'ai pas le droit de le déplacer pour rien. J'ai le droit de le déplacer, par exemple, si j'ai besoin de sa place. Par exemple, j'ai une corbeille de fruits qui est posée sur la table, des fruits qui sont pas mûrs, mais j'ai besoin de la place. Là, j'ai le droit. Ça, on étudiera Bezrat Hashem dans la suite des lois de moukhté.
C'est pas pour tout ce qui est moukhté, c'est uniquement parce que...
On verra qu'il y a 5 catégories de moukhté. Ouais. Ça, il nous faudra plusieurs cours dessus. Hein, D'ailleurs, je vais vous dire, c'est le siman le plus long dans Shulchan Aruch. Le chapitre le plus long dans Shulchan Aruch, c'est le chapitre Shinchet. D'accord, Shinchet 308, hein, on le connaît, hein, c'est le plus long du Shulchan Aruch. C'est le plus long, il n'y a pas plus long que ça. D'accord, je crois qu'il y a une centaine de... Enfin, une centaine...
Que sont moukhté.
Ah, c'est le plus compliqué. Ne cherchez pas, c'est plus compliqué.
La mise à jour, elle doit être longue, hein, parce que depuis...
Ah oui. Non, mais il y a des principes, il y a des généralités. Bon. Donc, je suis en train de dire, cette viande, étant donné que cette viande, est-ce qu'elle est consommable, cette viande? Non. Donc, elle est mouktée. Mais, les chachamim m'ont permis, alors ça, c'est un cas que le Shurano explique, que lorsqu'on sait qu'une personne risque de perdre beaucoup d'argent, les chachamim préfèrent lui permettre qu'ils ont interdit. Pourquoi? Parce qu'ils disent, les chachamim ont dit que Adam Baoul Al-Mamono, qu'une personne est angoissée sur son argent, et si tu te mets à lui mettre trop de restrictions, il va tout lâcher. Et quand il va tout lâcher, il va se retrouver à faire des interdits même de la Torah. Adam Baoul Al-Mamono. C'est
intéressant la question.
Oui.
Est-ce qu'on est sûr que toutes les viandes qui sont dans les boucheries, même,
quand tu arrives, tu vas chez les boucheries, elles ont moins de 3 jours.
Très bonne question.
Parce que 3 jours, c'est des limites.
Moi, je vois mon oncle, il est chochette, ouais. Je sais qu'ils font toute la shrita de dimanche soir à mardi soir, généralement, qui rentre le mercredi. Et alors, si tu vas le dimanche acheter ta viande, le dimanche matin...
Non, parce qu'on peut la laver au bout de 3 jours.
Non, c'est que de l'abattoir.
Non, mais il a été sur 4 jours. Il a le temps de
non, chez le boucher. Si tu l'as pas fait, tu peux la rincer une deuxième fois.
C'est bon, ça repousse.
Alors, il la rince, alors.
Mais c'est pas compliqué, il faut la saler, c'est tout, j'espère pas le boucher.
Mais si je l'ai pas encore acheté, moi, ouais, il parle de boucher.
Le boucher, il le fait, aujourd'hui, il le fait en général. Ouais. Le fait.
Oui, oui, il, avec un petit
24 heures dans le sel. Oui. C'est pas bon. Ah bah oui. Parce que d'un autre côté, quand tu le problème du sel, c'est ça. C'est que tu as le droit de la saler. C'est-à-dire que le sel a deux pouvoirs. D'un côté, il peut enlever le sang. Mais d'un autre côté, si tu laisses la viande dans le sel plus que 24 heures, alors le sang va réintégrer la viande et c'est comme une cuisson et là, c'est fini, tu peux la jeter.
Ou la cuire.
D'accord. Non, trop tard. Non, c'est pour ça que même quand on sale, il y avait une durée. Ça n'est pas dépassé 24 heures.
Oui.
On le laisse en général une heure.
Tu as raison, maintenant, dans les boucheries, tout est pratiquement à 90% cachérisé.
Qui ne cachérise pas aujourd'hui? Vous connaissez des boucheries qui ne cachérisent pas?
Oui.
Ah, vous pouvez demander une viande qui n'est pas cachérisée.
Non, tu vas là-bas où il fait les viandes en part, là-bas, c'est jusqu'au jour d'aujourd'hui. À la porte de la Villette, t'as des
quarts de bête,
kilos de viande, c'est pas cachérisé.
C'est pour les grillades.
Non, parce qu'il y a du paleron, de la basco, des machins.
Ouais, des gens des quarts de bête ou des.
Et pourquoi ils cachérisent pas?
Parce que ça devrait rien de plus cher.
Non, et même à mon avis.
Pourquoi ils cachérisent pas? Non, parce que c'est des gens qui vont griller, ils vont faire les grillades.
La halakha, on n'a pas le droit de vendre la viande non pesée. Pas normal. C'est une halakha.
Pourquoi on n'a pas le droit?
Parce que tu sais comment il fait? Je vais te le dire.
Ouais.
Il te vend une partie de la bête divisée par 3. Ça veut dire, qui veut un tiers de cette épaule de bœuf? D'accord?
Bon.
Alors, il y a 3 personnes qui lèvent la main. Et ensuite, lui, il fait des parts au jugé. C'est pas repesé.
Et alors? Ils savent au moment de la vente.
Mais non, c'est pas du tout.
Ils savent au moment de la vente.
Quand on enlève le gras, le machin, etc.
Ils savent au moment de la vente. Vous savez, il y a un cas qui est posé dans le Rambam. C'est un cas qui me rappelle ce qui se passe en Afrique quand des gens ils achètent des sacs de diamants, mais ils savent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ils achètent, d'accord, on sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Tu achètes, toi et ta chance, le mazal.
Bien sûr.
D'accord.
Mais là il y a un problème.
C'est de là d'ailleurs qu'il y a le mot mazal. Alors attendez. Et là il y a une question que Maïmonide pose. Il dit finalement, est-ce qu'un acheteur après peut se retracter sur la vente, peut dire non, moi je voulais pas acheter ça. Et la réponse est la suivante, c'est que si on arrive à prouver, attendez, écoutez bien. Si on arrive, il parle pas des diamants, Maïmonide, mais il parle d'un cas comme ça, c'est-à-dire que je m'engage sur une vente. Après la vente, d'accord, c'est d'ailleurs ce qu'on étudie actuellement dans Maïmonide.
J'achète ta récolte, voilà. Je sais pas combien il y a dedans.
Je sais pas combien il y a dedans. Après, j'ai dit non, si je savais, j'aurais pas pris. D'accord.
J'ai acheté mon
d'accord.
Tous les mois, j'achète trois ou quatre lots comme ça.
Alors, c'est quoi le din? Le din est que si c'est au vendeur de prouver que l'acheteur le savait au moment où il a acheté, qu'il savait que c'est un coup de chance. C'est ce qu'il aura, il l'aura. D'accord. Mais néanmoins, il y a quand même une exception qui dit Maïmonide, c'est que l'acheteur doit toujours récupérer au moins quelque chose. C'est pour ça que, et oui, c'est très important ce que je suis en train de dire. Il a toujours récupéré au moins quelque chose. Parce que s'il n'a rien récupéré, on considère que l'acheteur n'était pas d'accord de ça au début. Ça veut dire comme ça. Par exemple, quand je joue, quand je joue pour gagner au moins quelque chose. Si j'ai rien gagné, c'est un problème. C'est pour ça que, par exemple, aujourd'hui, vous savez, quand on fait un goral, pour faire un goral, un tirage au sort, chacun il met 10 euros ou 15 euros et on fait un goral pour celui qui gagne, il va chez le rabbi. D'accord? Normalement, c'est un problème. Pourquoi normalement c'est un problème? Parce qu'il y en a un seul qui va gagner et les autres ne vont rien gagner. C'est quoi la réponse? La réponse c'est qu'en vérité, tout le monde gagne quelque chose. Parce que quand on donne son nom pour le goral, on donne chacun son prénom et le nom de sa mère. Et celui qui va aller chez le rabbi, il va demander une bracha, il va amener le nom de tout le monde, donc sur la tombe du rabbi, il va demander une bracha pour tout le monde. Donc là, c'est bon. Sinon, c'est problématique. Parce que ça veut dire que celui qui va perdre, tu peux avoir un mauvais perdant. Ça existe le mauvais perdant dans la Torah.
Donc la loterie nationale, d'accord, c'est des tricheurs.
Je sais pas. Je dis pas que c'est un sort, je dis qu'à l'arrivée, c'est compliqué. Parce que quand t'as un vrai mauvais perdant, et qu'il dit non, si je savais, jamais j'aurais joué, ben quelque part c'est du vol. On lui a volé de l'argent.
La loterie, on est prêt à faire.
La loterie, bon, tu jettes l'argent.
C'est pour ça qu'il y a un lot de cons.
Comme il dit Shlomo Ameler, il dit jette ton pain sur l'eau. On verra ce qu'il a bien. Bon, je reviens à notre sujet, parce que du coup, on est parti à la viande. On est parti, on s'est un peu égaré. Alors, je reviens donc à la chotte de Shabbat. Donc, on a dit que, étant donné que c'est mouktsé, cette viande, puisqu'elle n'est pas consommable, étant donné qu'elle est mouktsé, donc, je n'ai pas le droit de la déplacer, mais par contre, j'ai le droit de la saler. Donc, je vais faire le minimum possible pour la saler, si je n'arrive pas à trouver un goy pour le faire à ma place. D'accord. Donc, ça, c'est un premier cas. Vous voyez, donc là en passant, je suis passé par deux interdits. Je suis passé par l'interdiction de la cuisson avec le sel, et je suis passé par l'interdiction de la viande. Donc c'est pas vraiment une interdiction, mais c'est une interdiction des rachamim. Les rachamim ont interdit de déplacer ce qui n'est pas consommable, parce qu'ils veulent pas que les gens se retrouvent à faire le ménage. Vous savez, quand on fait le ménage, on touche pas seulement ce qu'on va utiliser tout de suite. On fait le ménage, on va se mettre à faire du rangement. Les rachamim ne voulaient pas que le Shabbat, on le passe à faire du rangement. Pour ça, ils ont limité, ils ont dit, écoute, tu touches que ce que tu peux manger tout de suite. Ce que tu peux pas manger, ce qui n'est pas consommable, et ce qui n'est pas pour utiliser le sommeil, tu ne touches pas. Mouktsé.
Tu peux pas toucher ton téléphone pour un Shabbat.
Comme ça, il n'y a pas de ménage. Bon. Maintenant, on va parler d'une autre interdiction. On va parler de l'écriture sur les aliments. Bon, alors, sur ce gâteau, je vais le manger, vous inquiétez pas, après. Alors, sur ce gâteau, il n'y a rien écrit. Baruch HaShem, c'est tant mieux. Il y a des gâteaux dans lesquels c'est écrit la marque, ou petit beurre, ou tout ce que vous voulez.
D'accord ? Cream cracker.
Bon. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, vous achetez un gâteau à la crème dans lequel c'est écrit « Joyeux anniversaire, Intel ». À la crème. Alors, c'est quoi la différence entre le gâteau à la crème et ce gâteau ? Ben, c'est que dans le gâteau à la crème ne fait pas partie du gâteau.
Ben, moi, je suis pas d'accord avec toi.
Elle est au-dessus.
Ben, oui, elle fait partie du gâteau.
D'accord, vous avez compris. Elle fait partie de l'entité du gâteau, mais la crème n'est pas du gâteau. D'accord ?
C'est un composant.
Alors que dans le... On va y arriver, vous inquiétez pas. Alors que dans le gâteau, c'est carrément, ça a été gravé.
Bon.
C'est dans le gâteau. D'accord. Bon. Alors, si maintenant, donc, vous avez un aliment dans lequel c'est gravé soit une lettre,
soit un dessin.
C'est la même chose.
Ouais.
Parce que c'est quoi l'interdiction de Kotev et Mochek dans le Beit HaMikdash ? C'est pour ça que j'ai parlé de ça au début, tout à l'heure. Dans le Beit HaMikdash, on écrivait, mais est-ce que c'est dit forcément qu'on écrivait des lettres pour repérer les poutres ? Parce que vous savez, tout celui qui a déjà monté et démonté, il sait que le plus dur, c'est de repérer, de savoir où je dois reposer la poutre. Le Mishkan, on le démontait plusieurs fois, on l'a démonté au moins 40 fois.
D'accord ? Ouais, c'est pareil.
D'accord, donc c'est pareil. Donc tu vas écrire, tu vas mettre un repère. Maintenant, est-ce que le repère est forcément une lettre ? Non, pas forcément. Le repère peut être un dessin. Ça peut être un dessin.
Oui, une forme.
D'accord ? Donc voilà pourquoi Minatora, ça interdit et d'écrire un dessin, et d'effacer un dessin. C'est la même chose qu'une lettre pour nous. Parce que ça s'apparente au mlachot qu'on faisait au Mishkan. D'accord.
Bon, d'accord.
Donc maintenant, attendez.
T'as dit effacer tout à l'heure pour réécrire.
Oui, très bien, très bien. Mais ce que j'ai dit, c'est que ça, c'est Minatora. Les Midarabanan, ils ont tout interdit. Moi, je mange mon gâteau maintenant, donc, sans le vouloir, je vais effacer des lettres. Donc, est-ce que ça s'appelle effacer?
Ou des dessins.
C'est partagé, je crois.
Ah, attendez, on va en parler. Vous avez une fleur, par exemple, une belle fleur, une jolie fleur. C'est un dessin. J'efface la fleur.
Mais tu t'en tires pas profit, là.
Ah oui, mais j'ai mangé la fleur.
Il y en a qui sont allés jusqu'à dire on peut pas manger ce gâteau.
Je vais aller même plus loin que ça.
Les trous, c'est un dessin.
Je vais aller plus loin que ça.
Constitue un dessin.
Ouais, c'est le ciel étoilé.
Peut-être.
Ah, bah oui.
c'est le gâteau en lui-même, c'est une partie du gâteau.
Oui, mais ça change pas, j'efface quand même. Comme si c'est la feuille, j'ai une feuille, c'est rien.
Tu vois, là,
j'ai pas dit que c'est interdit. Attendez, bravo.
Moi, je vois des nuages,
vous m'attaquez tous. J'ai pas dit que c'est interdit.
Non, t'attaques pas, mais
oui.
Tu manges un.
C'est partagé,
pas,
c'est partagé.
J'ai pas dit que c'est interdit. Pour l'instant, je présente le cas. J'ai même un cas encore
tu
plus compliqué.
Oui, t'as un.
Il va y arriver.
On va y arriver, attendez.
Préparez les bâtons.
J'ai un cas encore plus compliqué.
Le kiwi, c'est naturel. Tu prends le fruit, il y a un dessin dans le cœur du kiwi.
Alors, oui, d'accord. Non.
C'est totalement naturel, à mon avis.
D'accord.
Et une cerise, c'est carrément un CD musical.
Attendez, j'ai pas fini. Je vais vous donner encore d'autres possibilités, d'autres cas. Vous avez un gâteau à la crème, d'accord, dans lequel vous avez rien écrit dessus. Vous avez mis avec des petits bonbons. Vous avez mis des petits bonbons. Avec les bonbons, vous avez formé un chiffre.
Ben oui, c'est aussi donc une écriture, on est d'accord.
Et vous allez manger le gâteau. Vous allez forcément casser une écriture. D'accord ?
Ouais.
Bon. C'est les exemples qu'il amène.
Des petites pâtes.
D'accord.
À baie, là.
Alors, écoutez bien le cas. Écoutez bien la halakha. Et ça, c'est important. La halakha est qu'on a le droit de les consommer uniquement si je le mange, et c'est en le mangeant que je vais manger les lettres. Mais, par contre, si maintenant, on va faire, par exemple, on a un gâteau dans lequel c'est écrit un 6 et un 0, voilà, 60, là. Et moi, je coupe le gâteau en deux, et je dis, voilà, toi, tu prends le 0, moi, je prends le 6. Là, c'est un problème.
Parce qu'on trie.
Parce que, non, c'est pas pour trier, non, je vais pas trier.
Mais chacun parce va manger.
Là, oui, chacun va manger. Oui, mais là, le problème, c'est que c'était au vert la achilatan. C'est-à-dire qu'on l'a fait avant de manger. C'est-à-dire, si je le fais en mangeant, quelque part, j'ai fermé les yeux, j'ai pas vu. Bon, là, c'est bon. Là, on accepte. Mais si, par contre, j'ai donné de l'importance à ces lettres, ça veut dire que carrément, j'ai découpé les lettres, toi, tu prends ça, toi, tu prends ça. Là, c'est un problème.
Avant mieux couper au
d'accord
milieu.
Tu coupes, soit tu coupes au milieu, ouais, d'accord? Bien sûr, on coupe, sans faire attention, sans faire attention, et on mange. Mais si je fais attention aux lettres, et je dis, toi, tu prends cette lettre, toi, tu prends cette lettre, là, ça s'appelle que j'ai effacé. Ça s'appelle que j'ai, il y avait un mot qui était écrit, je l'ai effacé. Parce que je l'ai distribué ouais avant de le manger. Vous voyez le problème? Maintenant, sachez que selon le Rama,
la moitié de 6, c'est la moitié de 6, c'est quand même
concrètement, oui, mais le but, c'était une lettre. Concrètement, aujourd'hui, sachez que pour le Rama, selon les Ashkenazim, bon, concrètement aujourd'hui la majorité des gens ne le font pas, mais pour le Rama selon les Ashkenazim, l'histoire du gâteau c'est interdit.
D'accord.
Bon, concrètement aujourd'hui la majorité des Ashkenazim ne font pas attention à ça. Parce que ça devient très compliqué. C'est pas seulement pour les écritures, même les dessins. Alors, on peut aller très loin. Attendez, vous savez où je peux aller avec ça? J'ai une challah qui est formée en rond. D'accord. Je coupe la challah. Ça y est, j'ai coupé le rond, j'ai fait un demi-cercle.
Ah, c'était un zéro et t'as cassé une lettre.
Mmh. On peut aller très très loin avec ça.
Tu vois, t'es Ashkenaz.
Ouais. C'est ouais. De Shalom. Il y en a un ici, il est
vite. Ashkenaz.
Ashkenaz, non?
Non.
Pourquoi t'es Ashkenaz? Chabad.
Ouais.
Non, mais t'es d'origine Ashkenaz?
Non,
turc. Turc, tu m'as pas dit que c'était Ben Shoham, c'est ça?
Ouais.
Tes parents, t'as une histoire avec la Shoah et tout? Oui. Ils étaient ici? Ah, d'accord, bon.
Ils étaient en France.
Ils étaient en France.
L'origine, c'est d'origine turque.
Exact. D'accord, bah on aurait pu.
Juive.
Ça me
tue, ça. Et à 6 générations, bah on était en Afrique.
Ok. Alors, autre chose aussi maintenant. Alors bon, il y a un cas aussi intéressant, c'est si vous avez un gâteau qui est carrément en forme de lettre. Ça, par exemple, c'est pas qu'il y a une lettre qui est écrite sur le gâteau.
Il y a les gâteaux aussi en forme d'animaux.
En forme d'animaux, etc. Alors c'est pareil. C'est pareil. J'ai le droit de le manger parce que moi je suis pas en train de manger un animal. Je suis pas en train de vouloir casser ouais un animal, je suis pas en train de vouloir effacer, donc c'est permis, il n'y a pas de problème. Autre chose aussi qu'il faut faire attention quand on mange. Vous voyez, là on a touché à l'écriture, au problème de l'écriture. C'est-à-dire qu'en mangeant, je peux écrire ou effacer. D'accord? Sans le vouloir. Si on a, dans un cas assez particulier. Autre problème.
Si il y a un plat de purée là,
oui,
on m'amuse à faire
tu peux pas. Faire des dessins dedans.
Tu peux pas faire des dessins. Non, c'est interdit. Alors, normalement, Minatora, c'est interdit seulement si c'est une écriture qui tient. Qui reste. Ça veut dire et qu'est-ce qu'on appelle une écriture qui reste? C'est une écriture qui tient au moins 7 jours.
Ouais, mais voilà la bleue, d'accord, on peut pas.
Ah, attendez, non, Minatora, j'ai dit, normalement Minatora. Minatora, parce que pourquoi? Parce que n'oubliez pas, dans le Mishkan, si on écrivait, ben, c'est pour que la prochaine fois quand on va le remonter, on retrouve. D'accord? Sinon ça sert à rien. Donc voilà pourquoi il faut que ce soit une écriture qui tienne. Tout se base sur le Mishkan. Il faut que ce soit une écriture qui tienne. Néanmoins, les Chachamim ont interdit, même si c'est une écriture qui tient pas. Donc, comme M. Bichon dit, la buée sur les fenêtres. Tu dessines un cœur ou ce que tu veux, d'accord, comme un... C'est sourd. Les Chachamim m'ont interdit. Parce que de peur que les gens ne vont pas faire après
dans
la différence.
Dans le sable.
Dans le sable, tout est interdit.
Il y a un problème sur les chaussures, des fois, parce que tu marches, il y a de la pluie,
et t'as
une marque dans les pompes en dessous, et après, quand tu continues de marcher dans un endroit sec, tu verras, il y a Adidas. T'as des timbres à la place des semelles, c'est compliqué.
Oui, hein. Mais moi, mon but, c'était pas d'écrire Adidas.
Oui.
À moins que le gars, il voulait faire exprès regarder les nouvelles Nike.
Mais mon but, c'était de manger mon gâteau, c'était pas de m'amuser avec les lettres. Alors?
Oui, c'est pour ça que j'ai dit, c'est permis le gâteau. C'est permis, mais, sauf si on a donné de l'importance aux lettres, quand on a dit, voilà, j'ai découpé les lettres, toi tu prends cette lettre, moi je prends cette lettre. Bon. Donc, je suis en train de dire maintenant un deuxième cas qui est interdit. On va s'arrêter avec cette halakha, on continuera la semaine prochaine. Si vous avez une étiquette sur un plat, sur un gâteau par exemple, ou sur un aliment, une étiquette.
Attends,
sur une pomme.
Le cachet de la bouteille.
Très bien. Le cachet de la bouteille, c'est encore autre chose.
Une étiquette sur la pomme.
D'accord.
L'orange Jaffa, par exemple.
Une étiquette sur la pomme, une étiquette sur l'avocat, etc. Une étiquette.
Généralement, ce sont des herchères. Ils sont collés.
Non, non. Par exemple, étiquette caramel sur un avocat d'Israël.
D'accord.
Sans vous la faire de pub. Ils sont très bons.
On peut l'enlever, non?
Alors, très bien. Je peux l'enlever. Mais il y a un problème. C'est que si je l'enlève mal, je peux déchirer les lettres. Et qu'au lieu d'écrire caramel, il y aurait écrit carte tout court, d'accord? Etc.
Alors, avec le couteau, avec un peu de poids, fais attention. On a trié.
Non. Pas de problème. On est en train d'accéder. Rappelez-vous ce qu'on avait expliqué.
C'est comme la noire.
J'accède. Tant que j'accède, il n'y a pas de problème.
Bon.
Alors, c'est quoi le din? Le din, c'est qu'il faut faire attention. Faire attention d'enlever d'enlever l'étiquette intégralement. De ne pas la couper. Pourquoi? Pour ne pas toucher les lettres imprimées. Parce que sinon, ça pourrait être morec, ça pourrait s'apparenter à effacer. Et donc de là, d'accord, on arrive à d'autres problèmes. Donc ici, il amène des exemples. Comme par exemple, même tu prends par exemple un œuf. Dans un œuf, d'accord,
des dates,
etc. D'accord. Donc on essaye de faire attention dans la mesure du possible.
Ça, je peux pas l'ouvrir Shabbat alors.
Pourquoi tu peux pas?
Il faut regarder. Oui, il faut regarder. Moi, je fais attention quand j'ai des trucs.
Tu l'ouvres sans casser l'écriture. Tu vois, là, par exemple, c'est moi qui l'ai fait celui-là. J'ai coupé le S de sucre.
Ouais, voilà. Il y a
d'accord. Deux. Voilà, mon S, il est là. Donc là, j'ai un S et là, j'ai ucre.
Eh ben, ça va pas.
C'est pas bon. D'accord.
Ah, mais ça va loin, donc.
Ça va très loin.
Mais
ça, c'est Midrabanan, c'est interdit. Minatora, c'est pas interdit, parce que Minatora, j'ai pas effacé pour réécrire. Mais les Rabanan ont interdit, les Chamim ont interdit.
C'est pour ça que tu peux pas fumer. D'accord. Shabbat, parce qu'il y a des lettres sur un site.
Allez. Ah, mais Yom Tov.
Oui, mais
comment,
ils sont écrits,
comment ils sont écrits les lettres? Ils sont écrits.
Le Rav Leib, dans le Kitsour, il dit qu'attention, alors lui il autorisait parce que tout le monde fumait pendant Yom Tov, il disait d'abord qu'il fallait fumer discrètement et il disait qu'il fallait se méfier des lettres sur lesquelles.
Vous avez une cigarette ici que je. C'est écrit où?
C'est écrit en haut.
C'est écrit en haut, d'accord.
Parfois c'est écrit sur le filtre et parfois c'est écrit sur le corps du papier lui-même, donc il va brûler le papier.
Il va brûler tranquillement, ouais, pas un problème.
Voilà. Et moi je me rappelle, il y avait un Rav qui fumait le. Et je lui ai dit, mais votre cigarette...
Il mettait du Tipex.
Il a écrit sur les Marlboro rouges à l'époque, je ne sais pas si c'est encore maintenant, il avait écrit sur le corps de...
D'accord.
Il m'a dit, je la jette avant.
Je
la jette avant, la cigarette.
Oui.
Avant que le feu arrive jusqu'aux lettres.
Ouais, mais il va arriver.
Ouais, mais...
Oui, non, c'est bon, il a raison. C'est-à-dire qu'après, c'est passif.
Ma cigarette, je l'ai abandonné.
Quand c'est passif, c'est permis. Bon, mais on a encore beaucoup de choses à étudier, mais on continue la semaine prochaine. Vous voyez comment on peut avoir beaucoup d'interdictions sans le vouloir, juste en mangeant.
La bouteille d'anisette. Ah,